Bonjour, vous écoutez l'épisode 24, La force des comptines, du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, je suis là pour accompagner les parents à mieux comprendre les enfants, les besoins, les émotions, les crises. Et après 22 ans à l'éducation nationale comme professeur des écoles en maternelle REP+, j'ai vraiment envie de vous transmettre mes outils. Vous en connaissez déjà quelques-uns, vous connaissez l'arc-en-ciel des besoins, le tequil, la cheminée des émotions, et il y en a encore plein d'autres à venir. Donc si vous voulez rentrer dans notre aventure des petits plus zen, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi les épisodes sur YouTube si vous n'êtes pas abonné à la plateforme ou si vous voulez les réécouter au travail discrètement. Donc n'hésitez pas à nous suivre un peu partout et il y a des défis sur Instagram aussi, notamment le challenge Fly Lady et puis aussi la croisière zen. Donc retrouvez tous les éléments de ma philosophie de vie, d'enseignement et d'éducation sur toutes ces plateformes-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la force des comptines. Toutes ces chansons, ces jeux de doigts, ces chansons à gestes qu'on a en mémoire nous-mêmes, parents, éducateurs, bien avant d'avoir des enfants, bien avant d'avoir un métier en lien avec la petite enfance, on a un bagage de chansons, on a un bagage de comptines qui reste là quasiment à vie. Alors évidemment, ça a une grande place dans la maternelle, ça a une grande place en crèche, ça a une grande place du coup dans le dispositif des moins de 3 ans que j'ai adoré mener pendant 5 ans. Et de se dire que non seulement la comptine et la chanson, c'est un support de langage, c'est un support de syntaxe. Donc là, il y a toute la maîtrise de la langue qui va être cachée derrière, bien entendu. Mais c'est aussi un support de culture, c'est un support fédérateur, c'est un support qui est lié au patrimoine finalement humain. Ça peut être le patrimoine familial, ça peut être le patrimoine national. Selon l'angle de la comptine qu'on va transmettre aux enfants, il y a cette notion que les générations entre elles ont le même bagage culturel et que nos arrière-grands-parents connaissaient certaines chansons qu'on connaît aussi. Et puis, d'autres comptines vont faire leur chemin, vont apparaître, vont se transmettre à leur tour, à nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants. Et finalement, c'est illimité. Il y a des nouvelles comptines qui se créent chaque jour. Ça permet aussi la rayure d'expression et de créativité. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais la comptine, la chanson à gestes, est vraiment un support extraordinaire, que ce soit en famille, que ce soit dans le monde de la petite enfance, hein, en crèche, en maternelle, et même en élémentaire. Après, ils l'utilisent encore beaucoup, parce que ça permet à la fois la mémorisation, ça permet de découvrir des nouvelles notions, des nouveaux mots, des nouveaux lexiques. Et bien souvent, c'est un thème qui peut être tellement transversal, la comptine ou la chanson, qu'elle permet d'avoir un pied dans plusieurs domaines de compétences. Je pense notamment aux chansons qu'on peut apprendre en histoire ou aux chansons qu'on peut apprendre aussi en mode scientifique, avec des mots qu'on n'aurait peut-être pas rencontrer si on n'avait pas appris cette chanson-là ou cette comptine-là. Donc, de la transmission de génération, vous avez déjà spontanément, je pense, chantonné avec vos petits-enfants quand ils étaient très jeunes. Il y a souvent les grands-parents aussi qui proposent des chansons en disant « c'est ma maman qui me la chantait ». Moi, j'ai beaucoup de chansons qui me viennent de mes parents, bien sûr, de mes grands-parents. Et puis, il y a tout le bagage qu'on apprend quand on est animateur de colonies, quand on est ensuite en formation d'enseignant. Et tout type de chansons, en fait, permettent d'associer des mots très différents. Il y a des chansons avec du vocabulaire soutenu, il y a des chansons avec du vocabulaire un peu plus trivial, et il y a même des chansons qui semblent ne rien vouloir dire, ni au niveau syntaxique, ni au niveau articulation. Et finalement, elles ont toutes un sens, parce que justement, elles vont soit faire rire les enfants, soit leur permettre d'articuler mieux des jeux de langue, des vire-langues, des jeux où il y a des assonances, des allitérations qui vont obliger les mouvements de la bouche et les mouvements de la langue à se muscler. Et les très jeunes enfants, au début, pensent avoir une production orale nette et claire. Et comme je vous disais dans l'épisode « Oser parler », souvent les premières chansons qu'on fait en classe ne sont pas intelligibles, ne sont pas compréhensibles. L'enfant croit qu'il chante exactement comme nous. Et en fait, pour lui, le résultat est bon. Et pour nous, le rendu, c'est plutôt un. Mais en fait, c'est très, très constructif pour nous de renvoyer l'idée qu'il s'est associé au moment de chanson, au moment de comptine. Je vais vous le dire beaucoup dans l'épisode, mais la comptine est un support tellement fédérateur pour nous, pour la cohérence du groupe, pour l'apprentissage en collectivité, qui finalement, ça va être un support qui leur permet très vite d'accéder à la notion d'appartenance, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit en colonie. En colonie, on a les mêmes référents, on a les mêmes chansons, et c'est des chansons ensuite qui s'ancrent et qui restent le souvenir de la colonie. C'est peut-être pareil, vous, quand vous partez dans un club de vacances, il y a 7 chansons du club de vacances qui mettaient tous les matins. Eh bien, cette chanson de groupe, cette chanson peut-être autour de la piscine, hein, j'ai cette image qui me vient là parce que c'est vraiment cliché, mais cette chanson-là, elle va être ensuite un support de plaisir, un souvenir agréable, peut-être un moment de qualité qui vous est resté de ce séjour-là. Et les enfants fonctionnent pareil. Finalement, si l'ambiance d'apprentissage de cette chanson-là, si le climat était doux, s'ils sentaient une vraie connexion, un partage, donc on est beaucoup dans la rayure orange, hein, bien sûr, de relation avec l'humain, que ce soit le parent, la crèche, l'école ou peut-être le centre de loisirs, le moment où il a découvert cette chanson, le moment où il a partagé une nouveauté, à la fois ça a titillé sa rayure de nouveauté, sa rayure « tiens, une chanson que je ne connais pas », il va trouver ça challengeant, il va trouver ça intéressant de découvrir une nouvelle chose. Et quand il va réussir à la mémoriser, à la produire, à la créer, à l'exprimer, ensuite ça va nourrir, comme d'habitude, sa rayure d'identité, sa rayure aussi d'indépendance, parce que quand il arrive à la maison et qu'il est capable de rechanter la chanson, vous voyez hein, dans leurs yeux, quand il chante une chanson de l'école ou qu'il chante une chanson au retour de la crèche, il est tellement content d'apporter à la maison quelque chose qu'il a vécu lui, qu'il a vécu dans un autre groupe, dans un autre cadre. Et c'est une sorte de transmission très riche, finalement, d'un monde cloisonné à l'autre pour se dire que le rôle du langage, hein, je vous en parlais dans l'épisode 19, le rôle du langage, c'est aussi de partager à quelqu'un qui ne l'a pas vécu une nouvelle notion ou une nouvelle chanson, hein, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et de voir qu'on peut à notre tour contribuer par la parole au savoir de l'autre, à la connaissance de l'autre. Donc, je ne vous cache pas que je n'explique pas tout ça comme ça aux élèves hein, le premier mois en maternelle, mais c'est une philosophie et une notion qu'on intègre finalement tous quand on est professionnel de la petite enfance, de se dire « je vais utiliser les comptines non seulement comme support de langage, mais ça va être aussi un outil fédérateur pour le groupe et ça va être aussi un outil de communication vers la famille, vers l'extérieur et vers le temps sur la longue durée. » Tout ce qu'on va donner comme comptine, tout ce qu'on va donner comme berceuse, tout ce qu'on va donner comme chanson à nos enfants ou à nos élèves serviront de bagage linguistique, culturel pour plus tard. Donc donnons-leur évidemment tout ce bagage si nous, ça nous met suffisamment à l'aise. Je vais vous le dire maintenant, mais je l'avais noté un peu pour plus tard, c'est évidemment pas la qualité du chanteur qui compte, c'est pas le fait qu'on trouve notre voix harmonieuse ou qu'on trouve qu'on chante faux, c'est une difficulté qu'on entend souvent chez les jeunes stagiaires professeurs des écoles qui pensent qu'ils ont une mauvaise voix, qu'ils chantent faux, mais finalement l'intention est tellement plus forte que le rendu qualitatif, on ne va pas vendre un CD, on ne va pas vendre un audio. Il y a des chorales, hein, si vous avez déjà participé aux chorales de vos enfants, il y a des chorales qui sont plutôt dans un rendu, on va dire, approximatif. Mais finalement, le bonheur de partager cette chanson ensemble, le bonheur de transmettre et d'avoir un vécu commun est bien plus important que la qualité audio de notre voix. Alors, je pense au room qu'on fait souvent avec Fauzi sur Clubhouse. Donc, je le salue. Hein. Lui, il a une école de musique. Donc, ce n'est pas pour dire que ça ne sert à rien d'apprendre à chanter juste, hein, bien entendu. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, je ne vais pas m'empêcher de chanter parce que je crois que ma voix est moins juste que mes collègues ou parce que je crois que ma voix est moins mélodieuse que les musiciens autour de moi. Dans l'intention de partager avec ses enfants, les enfants ne nous jugent pas sur la qualité de notre voix. Les enfants apprécient le moment, même si on chantait faux, ils apprécieraient ce moment quand même. Donc, je sais que je ne vais pas forcément débloquer ça en une seule fois en vous disant « lancez-vous et chantez, même si vous trouvez que votre voix pourrait sonner faux ». Mais en tout cas, essayez de ne pas vous limiter à cette croyance que votre voix pourrait être mieux. Peut-être que notre voix pourrait être mieux, peut-être que notre qualité et notre finesse de, j'allais dire, d'accorder ça au diapason de tous les enfants ne sera probablement jamais parfait, ni en maternelle, ni en crèche. Et alors, l'idée, c'est le moment de connexion plus que la qualité audio. Et du coup, je vous parlais au tout début des jeux de doigts, des jeux de gestes et de signes. Le fait d'associer les mots, la mélodie avec des petites mimiques et des petits jeux de doigts. Donc quand les mains tournent avec le moulin, quand on mime les oiseaux qui volent, quand on mime le poisson qui nage. Tous ces gestes-là permettent à l'enfant d'avoir un autre canal d'apprentissage. Permettent d'avoir à la fois la vision du mot et à la fois l'audio du mot. Et comme il le fait en même temps lui-même, ça veut vraiment dire que tous les sens sont mobilisés. Le fait de reproduire en neurones miroirs les gestes de la maîtresse ou les gestes de la référente de crèche lui permet finalement de vivre le mot, de vivre la mélodie et de la mémoriser d'autant plus qu'il est acteur de son apprentissage, comme je vous disais la semaine dernière sur faire ses propres choix. Donc le passage avec des comptines mimées, des comptines signées, tout ça va aider l'enfant à s'approprier les mots, la mélodie, la syntaxe encore plus vite. C'est aussi un outil très fort de retour au calme. Quand on a beaucoup de bruit dans nos classes, quand on a besoin de changer de local, quand on revient de la récréation, c'est un outil qu'on développe très rapidement à la place de crier, à la place d'imposer le silence. Le fait même de démarrer une comptine que tout le monde connaît rassemble très très vite l'attention, permet au groupe de se refocaliser sur « ah oui, la récréation est finie ». Et spontanément, je pense que les enseignants l'utilisent vraiment de façon presque inconsciente. Dès que le seuil de tolérance au bruit est activé, on lance une comptine. Ça attire les regards, ça fait redescendre la pression, ça remobilise l'idée de collectif et du coup, il y a moins ce brouhaha. Physiquement même, ça apaise les enfants. Et la mélodie en elle-même réadoucit le rythme et permet à tout le monde de changer d'activité, de changer de salle, de revenir de récréation plus calmement, plus dans l'apaisement. Et ce n'est pas parce qu'on fait une comptine douce hein, ou on peut faire une comptine assez vive avec des choses rigolotes et tout ça. Mais le fait de proposer l'activité rassemble physiquement, intellectuellement, le groupe autour de cet énoncé, qui soit doux, qui soit fort, qui soit drôle, qui soit complexe, et remet un peu de collectif dans l'individualité du bruit. Donc c'est un lien très fort quand on a nos élèves, c'est un lien très fort aussi quand on reçoit les familles, quand elles nous disent que les comptines pour elles c'est aussi une transmission quand on est par exemple en train d'allaiter, quand on est en train de donner le biberon. Il y a beaucoup de mamans qui bercent, qui chantent, ça peut être des comptines de leur enfant, ça peut être des comptines dans une autre langue, ça peut être des comptines dans une autre culture. Et tout ça, c'est une richesse phénoménale et on en a parfois des enfants qui sont étonnés qu'un autre élève de la classe connaisse aussi la comptine de leur maman, connaisse aussi tel ou tel thème de comptine parce que ça leur révèle que ce qu'ils croyaient finalement unique, singulier, et déjà en ça, hein, c'est précieux, peut être aussi communiqué à d'autres enfants de la classe. certains enfants ont découvert qu'ils connaissaient la même chanson. Et c'est assez touchant de voir tous ces liens entre les différences et les ressemblances se jouent aussi autour du monde musical, autour du monde des livres. On fera un épisode sur les livres, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est transmettez tout ce que vous avez envie, que ce soit par l'oral, par le musical, par les comptines, peut-être des enregistrements que vous avez gardés aussi de vos familles, pour que ce soit une force, une identité pour chacun de vos enfants et pour nous, chacun de nos élèves. Ça nous sert aussi les comptines de mode de prélecture. Dans mon dispositif, j'avais des cartes pour chaque comptine, donc j'avais une carte par comptine avec une petite illustration et le texte. Et très rapidement, quand je commençais à chanter la comptine, des enfants allaient chercher la carte qui correspondait à ce que je chantais. Donc vous voyez que s'installe très vite une correspondance entre le contenu de mon énoncé à l'oral et le support écrit. Alors au début, on peut penser que c'est juste le dessin qui les interpelle, mais même quand on enlève le dessin, les enfants savent qu'il y a un écrit qui va avec ce que je dis. Donc c'est un premier pied dans le monde de l'écrit qui plus tard pourra les aider à comprendre que ce qu'on dit peut être écrit et ce qui est écrit peut être dit et donc de rentrer dans le monde à la fois oral et écrit bien sûr. On a aussi en maternelle beaucoup de comptines qui peuvent nous permettre de démarrer un projet. Par exemple, une année on avait fait tout un projet autour de l'alimentation. Donc c'était l'occasion d'étudier par exemple des comptines comme Dame Tartine, où il y a des mots compliqués, il y a des mots masse-pain, il y a des mots croquet, il y a des mots vraiment à l'ancienne. Et d'utiliser une comptine que les gens pensent connaître, en fait, ça nous permet de voir la compréhension de chaque enfant qui, finalement, ne se pose pas toujours la question en disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de chanter ?» qui chante plus par habitude, qui chante plus sans réfléchir au contenu. Et on l'a tous fait quand on chantait La Souris Verte, honnêtement. Si vous écoutez bien les paroles de La Souris Verte, on ne voit pas trop où on veut en venir au niveau du sens et de la cohérence. Mais tout le monde la chante. C'est vraiment un bagage culturel national. Ceci étant, au niveau du sens, faire un projet sur La Souris Verte me paraît parfois moins pertinent que faire un sujet sur le roi Dagobert, qu'on travaille beaucoup en grande section, parce que les enfants mettent leurs chaussures à l'envers, parce que les enfants mettent encore parfois leur pull à l'envers. Donc tous ces supports nous permettent de travailler le fond du lexique, le sens du lexique, la compréhension fine, à la fois des mots et à la fois des concepts. Et puis évidemment, si on fait un projet sur les animaux de la savane, c'est l'occasion de faire toutes les comptines qui parlent des animaux de la savane, qui amènent le vocabulaire. Et par les comptines, il y a une grande mémorisation qui s'installe, ce qui fait que les mots qu'ils ont entendus dans la comptine, quand on les lit dans un album, eh ben, ils savent qu'ils l'ont déjà vu ce mot, ils le réactivent dans leur base de données, ils le réactivent dans leur mémoire, et ça fait beaucoup plus vite de sens au niveau réactivation des neurones, parce qu'ils l'ont vu à la fois sur le support de l'album, à la fois dans une comptine, peut-être dans un jeu dans la cour de récréation, peut-être sur une création artistique quand on était sorti au spectacle. Et donc toutes ces inférences vont faire que l'enfant va se dire « Ah, j'ai bien compris le sens de ce mot parce que je l'ai vu dans plusieurs occasions et à plusieurs répétitions dans des contextes différents. » Donc proposer vraiment un champ très large de comptines, des simples, des difficiles, des signés, des à gestes, des à trous. Hein, il y a des comptines aussi où on enlève le mot et à la place du mot, on fait le geste, comme la famille tortue. Tout ça, c'est très riche en apport lexical, en apport culturel et en apport d'initiation au monde de l'écrit. On a parlé aussi beaucoup des souvenirs en commun. Ce lien collectif qui va rester en fait plusieurs années après. J'ai des élèves qui me croisaient dans le couloir et qui me disaient « Ah, mais je me rappelle du projet qu'on avait fait, on avait fait telle chanson, on avait fait telle exposition. » Donc c'est un support vraiment affectif, je pense, qui cristallise pas mal une partie de l'arc-en-ciel des besoins justement, parce que dans notre intention de parents ou dans notre intention d'enseignants, quand on met en place une chanson, une chorale, une séance de musique, on se parle beaucoup plus de cœur à cœur. et il y a beaucoup moins cette verticalité hein, dont je vous parle dans l'épisode 2. On part sur quelque chose qu'on transmet, mais sans vouloir imposer quelque chose de sorte de dire « moi je sais et je vais t'apprendre ». C'est beaucoup moins descendant que ça en fait. On offre l'idée de connaître un peu tout notre patrimoine et tout notre bagage. Et à la fin de l'année, les enfants ressortent avec toute une valise en fait de comptines, de gestes, de notions, de concepts. Et quel que soit le support, on l'aura donné avec vraiment beaucoup de partage, d'amour, hein, je vais oser le dire, parce qu'il y a quand même de l'amour dans la transmission de maîtresse à élève, et de se dire, tout ça c'est pour la vie, donc on leur donne toutes ces chansons pour la vie, et quand ensuite les grands-parents se disent, ah mais on la connaît aussi cette chanson-là, on a beau l'avoir appris en classe, finalement elle continue à faire du lien avec les cousins, avec les grands-parents, peut-être avec la maîtresse de l'année d'après, peut-être avec quelqu'un qui va rencontrer en colonie. Et finalement, on leur met, sans qu'ils le sachent, des billes de connexion qui eux-mêmes vont les connecter avec d'autres personnes plus tard sur leur chemin pour grandir et pour l'autonomie. Et le fait que le professeur soit un peu nommé comme chef d'orchestre au début, ça assoit aussi une certaine perception de l'harmonie. Je vous en ai parlé sur une room sur Clubhouse. On avait fait venir en grande section une fanfare avec, c'était la fanfare de Nanterre, qui était vraiment très contente de vivre cette expérience dans une classe de grande section. Et les enfants avaient compris de manière vraiment philosophique que quand les musiciens jouaient quand ils voulaient, sans écouter les autres, ça donnait une cacophonie insupportable. Et j'avais trouvé ça exceptionnel qu'ils se soient rendus compte de ça sans être passé par « oui, mais il faut écouter l'autre ». On était vraiment passé par le ressenti visuel auditif de se dire « ces musiciens qui sont tous venus, je crois qu'ils étaient 8, quand ils s'étaient mis à jouer tous ensemble comme ils voulaient, ça ne donnait pas un résultat harmonieux ». Ça veut dire que les enfants avaient instantanément fait la connexion entre eux. Pour que ça donne une bonne musique, il faut quand même décider comment on joue, quelles sont les règles de jeu, hein, quelles sont les limites qu'on se fixe, de coordonner un petit peu, de voir qui va faire plus fort, moins fort, avant, après. Et ça leur a donné vraiment une portée très intéressante qu'on a repris après en atelier philosophique. Mais là, cette découverte, elle était tellement transversale qu'on est sorti du projet musique en lui-même pour aller vers un projet quasiment citoyenneté, écoute de l'autre, limite communication non violente presque, de façon assez précurseur, parce que c'était il y a longtemps tout ça. Et j'ai noté aussi dans cet épisode de vous dire que le renvoi entre la rayure d'identité, du coup, toutes ces chansons, toutes ces comptines, toutes ces connaissances qu'ils vont avoir pour eux et pour le groupe, elle peut aussi aller dans une rayure bleue de comprendre l'extérieur, de comprendre le monde, de comprendre qu'on n'a pas toutes les mêmes références, que toutes les maîtresses ne connaissent pas les mêmes chansons. C'est un peu bizarre pour eux au début parce qu'ils arrivent en disant « ben oui, moi je connais une chanson » et ils essayent de nous la chanter et en fait on ne la connaît pas parce qu'on ne connaît pas toutes les chansons qu'ils ont apprises en crèche par exemple. Et là ils sont étonnés de se dire « ah mais en fait... les autres connaissent pas tout ce que je connais. » Et donc, je vous renvoie à ce qu'on disait la semaine dernière sur l'idée que on a des connaissances intérieures, on a des potentiels intérieurs, mais on ne sait pas qu'ils sont uniques finalement, on ne sait pas qu'ils sont singuliers. Mais parmi les gens qu'on va rencontrer, d'autres auront ces potentiels aussi et on pourra aussi nous expliquer qu'on connaît tel ou tel concept, telle ou telle notion. Et c'est toujours intéressant de poser les mots sur le fait que « Ah, mais cette chanson-là, toi, tu la connais bien, mais moi, je ne la connais pas. Donc, si tu veux nous la faire découvrir, vas-y, essaye de nous la chanter. Et ensuite, on essaiera de la retrouver et de l'apprendre. Si tu es d'accord, on apprendra la même chanson que toi. » Et une fois de plus, c'est beaucoup moins descendant, c'est beaucoup moins vertical. On est dans un partage de connaissances, on est dans un partage pour grandir ensemble. C'est du coup un peu la notion de célébrer hein, que vous retrouvez aussi dans une des rayures. Le fait de célébrer ce qu'on connaît et le fait de célébrer qu'on a encore d'autres choses à connaître entre nous. Et au tout début, je vous parlais de la rayure d'expression parce que quand on a fait le projet sur les dangers domestiques, on prenait des mélodies que tout le monde connaît et on changeait les paroles pour recréer un texte lié aux dangers domestiques. Alors je me souviens d'un exemple qui était « On ne doit jamais mettre un sac sur sa tête. Je peux plus respirer, je suis vraiment en danger. » Et vous voyez que de prendre une mélodie qu'ils ont déjà, hein, finalement dans leur connaissance, dans leur conscient, les fait apprendre les nouvelles paroles encore plus vite. Et ils retiennent aussi bien la chanson d'origine que la chanson retravaillée, que la chanson remodifiée, qui s'intègre du coup dans le nouveau projet. Ce qui fait que le nouveau projet est tiré un peu par la locomotive de la mélodie et permet une fois de plus d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller ensemble en se disant on part d'une base commune et finalement on met un nouveau texte avec du nouveau vocabulaire et là pour le coup la notion d'asphyxie puisqu'on travaillait sur les 7 familles de dangers domestiques. Donc voilà à quel point le support de la chanson, à quel point le support de la comptine peut être exploité en classe, peut être exploité en crèche. Les professionnels le font déjà. Mais là, j'avais envie vraiment de vous expliciter tout ça pour qu'à la maison, vous preniez la pleine mesure du pouvoir des comptines, du pouvoir des chansons. Vous avez sûrement dans vos ordinateurs, dans vos playlists, des comptines de votre enfance, vous avez des comptines d'autres pays, vous avez des livres qui retracent aussi les comptines, des fois à la bibliothèque, il y a toute une collection qui parle du grand cerf, de la souris verte, de pirouette cacahuète. Donc ils ont fait un album à partir de la comptine, et ça c'est super riche pour l'enfant qui met une image sur un audio, et inversement, qui met un audio sur un texte. Donc n'hésitez pas à faire ces allers-retours entre l'oral et l'écrit, entre le visuel et l'auditif. Tous ces sens-là qui sont mélangés dans l'apprentissage attisent la mémorisation et attisent à chaque fois la réactivation des connaissances qu'ils ont vues avant, pendant, après, pour que ce soit un bagage vraiment stable pour plus tard, pour le long terme. Donc ressortez vos vieux CD, ressortez vos vieilles cassettes. J'ai retrouvé des cassettes là en rangeant ma classe. C'est assez bizarre quand même de retrouver des cassettes quand j'ai débuté. On travaillait encore avec des cassettes, c'était il y a 22 ans. Donc j'ai retrouvé ça en rangeant ma cave. Et de se dire, vous avez plein de playlists, hein, bien sûr maintenant sur les applications, sur YouTube, sur les podcasts. Mais profitez aussi de ce que vous avez vous à transmettre à l'oral sans vous crisper à propos de votre voix. Votre enfant vous aime déjà, même si vous chantez avec une voix un peu déraillante. Ce sera quand même un super tequil. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de chansons et de comptines. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux, à réécouter d'autres épisodes éventuellement si vous ne les avez pas écoutés forcément dans l'ordre. Je vous propose par exemple d'écouter du 7 au 10, qui sont vraiment les premiers outils que j'ai travaillés de façon vraiment plus construite pour vous aider dans votre parentalité. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.